Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 30e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Nicolas Malebranche et la question « Y a-t-il une preuve philosophique de la vérité du christianisme ?» De tous les héritiers du cartésianisme, le père Nicolas Malebranche, oratorien, est sans doute le plus extrême, c'est-à-dire à la fois le plus rationaliste et le plus mystique. Voilà pourquoi les jésuites et les jansénistes parviennent à s'accorder pour l'accuser ensemble de tous les maux. Il est devenu ordinaire de dénoncer Malebranche pour son occasionalisme, thèse selon laquelle les créatures ne sont pas de véritables causes, mais seulement des occasions par lesquelles Dieu, la seule vraie cause, agit, ou encore de s'indigner de sa réduction des animaux à des machines, jusqu'à répéter cette anecdote d'un coup de pied qu'aurait donné le bon prêtre dans le ventre d'une chienne enceinte en disant qu'elle ne pouvait souffrir. Il n'en demeure pas moins que Malebranche est un de nos plus grands écrivains, un penseur original et celui qui a essayé de montrer que la philosophie devait s'incliner devant la révélation chrétienne. Écoutons donc à ce sujet un extrait des entretiens sur la métaphysique et sur la religion du père Nicolas Malebranche.
Théodore, l'être infiniment parfait ne peut qu'il n'agisse selon ce qu'il est. Lorsqu'il agit, il prononce nécessairement au dehors le jugement éternel et immuable qu'il porte de ses attributs, parce qu'il se complaît en eux et qu'il se glorifie de les posséder. Ariste.
Cela est évident, mais je ne vois pas où tendent toutes ces généralités.
Théodore. À cela, Ariste, que Dieu ne prononce parfaitement le jugement qu'il porte de lui-même que par l'incarnation de son Fils, que par la consécration de son pontife, que par l'établissement de la religion que nous professons, dans laquelle seul il peut trouver le culte et l'adoration qui expriment ses divines perfections et qui s'accordent avec le jugement qu'il emporte. Quand Dieu tira du néant le chaos, il prononça « Je suis le Tout-Puissant ». Quand il forma l'univers, il se complut dans sa sagesse. Quand il créa l'homme libre et capable du bien et du mal, il exprima le jugement qu'il porte de sa justice et de sa bonté. Mais, quand il unit son Verbe à son ouvrage, il prononce qu'il est infini dans tous ses attributs, que ce grand univers n'est à rien par rapport à lui, que tout est profane, par rapport à sa sainteté, à son excellence, à sa souveraine majesté. En un mot, il parle en Dieu. Il agit selon ce qu'il est et selon tout ce qu'il est. Comparez, Ariste, notre religion avec celle des Juifs, des Mahométans et toutes les autres que vous connaissez et jugez quelle est celle qui prononce plus distinctement le jugement que Dieu porte et que nous devons porter de ses attributs.
Ah, Théodore, je vous entends.
Je le suppose. Mais prenez garde à ceci. Dieu est esprit et veut être adoré en esprit et en vérité. Le vrai culte ne consiste pas dans l'extérieur, dans telle ou telle situation de nos corps, mais dans telle et telle situation de nos esprits en présence de la majesté divine, c'est-à-dire dans les jugements et les mouvements de l'âme. Or, celui qui offre le Fils au Père, qui adore Dieu par Jésus-Christ, prononce, par son action, un jugement pareil à celui que Dieu porte de lui-même. Il prononce, dis-je, de tous les jugements, celui qui exprime plus exactement les perfections divines, et surtout cette excellence ou sainteté infinie qui sépare la divinité de tout le reste, ou qui la relève infiniment au-dessus de toutes les créatures. Donc, la foi en Jésus-Christ est la véritable religion. L'accès auprès de Dieu par Jésus-Christ, le seul vrai culte. La seule voie de mettre nos esprits dans une situation qui adore Dieu. La seule voie, par conséquent, qui puisse nous attirer les regards de complaisance et de bienveillance de l'auteur de la félicité que nous espérons.
Fabrice Hadjadj, l'être infiniment parfait ne peut qu'il n'agisse selon ce qu'il est. Quel est le contexte de ce texte ?
C'est un texte donc, des entretiens sur la métaphysique et la religion. Il a écrit plusieurs entretiens, Malebranche, et c'est un texte où il faudrait rapporter à certains travaux aussi mathématiques sur l'écart entre l'infini et n'importe quel nombre fini. N'importe quel nombre fini relativement à l'infini, dira Malebranche, c'est équivalent à zéro. Ouais, de toute façon, c'est voilà, ça l'évidence. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre fini sur un numérateur, vous mettez, voyez, le dénominateur, vous mettez l'infini, il n'y a plus rien, quoi, c'est zéro. Et justement, la question pour Malebranche ici, c'est de dire, mais si Dieu est infini, il crée un monde fini. À ce moment-là, quand il crée le monde fini, il n'y a rien qui soit à sa hauteur. Quel est dans le monde fini, quelque chose, un culte qui pourrait vraiment rendre hommage à Dieu. Voilà. Tant qu'il n'y a pas l'infini dans le monde, et ça ne marche pas. Et c'est ça le cœur du sujet, c'est cet écart. Hein. Donc on a un texte ici qui va employer à la fois le modèle mathématique, disons, voilà, typique de cette époque, Et puis, une question apologétique de défense de la foi chrétienne pour donner ce que Malebranche appelle une preuve métaphysique de la vérité de la religion du Christ. Donc c'est ça le contexte. Mais peut-être qu'il faudrait dire quelques mots de Malebranche, trop oublié, et qui cependant est un philosophe très important. Le seul dans la modernité qu'il a vraiment considéré, réhabilité, c'est Merleau-Ponty, hein, Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit, bien sûr, sur Malebranche.
Malebranche est un prêtre de l'oratoire qui vit exactement la même durée que Louis XIV, puisqu'il naît en 1638 et mourra en 1715. Donc il suit vraiment Louis XIV pendant toute sa vie. Après des études de théologie en Sorbonne et l'année de son ordination, il va découvrir Descartes en lisant son traité de l'homme, donc un des traités que Descartes n'avait pas publié de son vivant, à cause de la condamnation de Galilée, et qui va être publié en 1664 à titre posthume. Et donc, à cette occasion, Malebranche découvre cet auteur, Descartes, et est complètement fasciné. Et peu de jours après son ordination, il écrit une lettre dans laquelle il dit qu'en 30 ans, Descartes s'est davantage approché de la vérité que tout le reste des philosophes dans toute l'histoire de la philosophie. Donc il va vraiment vouer presque un culte à Descartes qui est vraiment... pour lui, le philosophe par excellence. Il va passer 50 ans, pratiquement sans quitter sa cellule, à l'oratoire, rue Saint-Honoré à Paris.
Il faut dire le lien déjà de Descartes avec l'oratoire, hein, parce que aussi Descartes connaissait le cardinal Bérulle, le fondateur de l'oratoire français, qui a été fondé en Italie, bien sûr, par Philippe Néri. Mais donc Descartes avait des liens avec les oratoriens très forts, donc c'est presque naturellement qu'il a trouvé une sorte de fils parmi les oratoriens.
C'est vrai. Depuis sa cellule, il va chercher à promouvoir la physique cartésienne. Et il est élu en 1699 à l'Académie royale des sciences en tant que physicien et mathématicien, et il donnera pour tâche au sein de l'Académie de promouvoir la physique cartésienne. Il va avoir une très très grande correspondance et ses écrits vont être très largement diffusés en Europe, et il va avoir notamment de grandes querelles. Querelles notamment avec Antoine Arnauld, le grand théologien de Port-Royal, au sujet de la nécessité de la révélation et de la foi. Antoine Arnauld, qui était au début un ami de Malebranche, finira par le faire condamner et parviendra à faire mettre à l'index le traité de la nature et de la grâce de Malebranche. Querelle aussi avec Leibniz. Avec Leibniz, Malebranche entretient une correspondance de 40 ans. C'est la plus longue correspondance de l'histoire de la philosophie. Et ils se sont disputés sur la question de savoir si les causes secondes agissent par harmonie préétablie ou par cause occasionnelle. Et enfin, alors que George Berkeley, l'évêque anglican et philosophe irlandais, visite Paris, Berkeley qui est extrêmement influencé par la pensée de Malebranche, eh bien, ils vont avoir une dispute. Berkeley vient rendre visite à Malebranche. Ils vont avoir une dispute sur l'existence ou non de la matière. Et la légende veut que, suite à cette rencontre, Malebranche était tellement furieux par les arguments et par l'incompréhension que Berkeley présentait de sa philosophie et le détournement qu'il en avait fait, qu'il a été pris d'une violente maladie. Et donc, il s'endort quelques jours après Louis XIV. Bernard Fontenelle, son biographe, dit qu'il traverse sa maladie en philosophe, c'est-à-dire son esprit n'est pas touché par ce que subit son corps qu'il a toujours tellement méprisé.
Oui, Descartes a eu une correspondance avec Arnauld et il y a eu toujours de la sympathie jusqu'au bout, alors qu'avec Malebranche, effectivement, ça tourne plutôt mal à chaque fois et effectivement, il va avoir de nombreuses querelles, précisément parce qu'il va avoir des positions beaucoup plus extrêmes que les autres. Mais d'une certaine façon, en cela, il a aussi une certaine fidélité. On avait parlé chez Descartes de ces coups de théâtre dans la pensée, et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez Malebranche. Alors, la grande thèse de l'occasionnalisme, hein, qui est l'idée que les créatures ne sont pas de véritables causes. Elle est fondée sur un problème d'abord entre les corps qui en eux-mêmes ne peuvent pas bouger. C'est cette vision un peu géométrique du monde, hein, héritée par Descartes, hein, de Descartes pour par Malebranche. Et donc comment est-ce qu'un corps peut en mouvoir un autre? Mais il y a un autre problème, c'est comment est-ce qu'un esprit peut mouvoir un corps? Il y aurait un abîme entre le monde spirituel et le monde corporel. Donc l'idée, c'est que à chaque fois, les choses n'agissent que parce que Dieu agit. Et au fond, il retrouve une idée qui est déjà chez Descartes, chez Thomas d'Aquin, je veux dire. C'est la notion d'opération. Chez Thomas d'Aquin, l'opération a deux faces. L'opération de la créature n'est possible que parce que Dieu opère en elle, lui donne d'être, d'agir, la conserve dans sa bonté, la tire vers son bien. Cependant, Thomas d'Aquin aura cette phrase que Dieu, pour agir, ait besoin des créatures, ce serait une imperfection dans sa puissance. Tout puissant, c'est qu'on agit directement. Et donc, c'est pas possible qu'un tel Dieu soit aussi impuissant. Et Thomas d'Aquin fait cette remarque, il dit oui, mais un roi pourrait effectivement avoir besoin de ministres par imperfection, mais il pourrait avoir aussi des ministres par dignité, parce que ça vient, renforcer l'éclat même du pouvoir royal, d'avoir des ministres. Et Thomas d'Aquin dira, mais la toute-puissance de Dieu, c'est pas simplement de donner aux créatures, mais de leur donner de donner. En gros, de faire en sorte qu'elles deviennent elles-mêmes causes. Donc oui, Dieu donne aux créatures de causer, mais ça devient des causes réelles. Alors, chez Malebranche, il retrouve l'idée que Dieu est derrière toute causalité, et c'est en ça que c'est un mystique. Derrière l'occasionnalisme, il y a l'idée que Dieu agit en tout, partout, tout le temps. Et quand j'allume un feu, c'est Dieu. Il faut imaginer hein, la contemplation de Malebranche. Parce qu'il traduit dans un vocabulaire cartésien, philosophique, abstrait, un rapport au monde qui est extraordinaire quand même. Je ne peux pas, si je fais mon lacet, c'est Dieu qui fait mon lacet. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça la pensée de Malebranche. Donc, sous un certain rapport, il faut s'émerveiller de cette radicalité. Il ne faut pas tout de suite dire oh, « ça ne veut rien dire, oui, il méprise le... » Oui, d'accord, il se rend pas compte que Dieu, dans sa toute-puissance, a donné aux créatures la dignité de cause. D'accord. Mais quand on dit « Dieu a donné la dignité de cause aux créatures », on peut aussi être tellement obnubilé par la causalité des créatures qu'on ne voit plus la causalité divine derrière. Enfin, c'est ça. Mais lui, il la voyait partout. Donc, c'est un contemplatif. La traduction rationnelle est discutable, mais c'est un grand contemplatif. Et donc, ça c'est un point fondamental. Quant à l'autre question que vous abordiez au début du texte, Keldrick, c'est-à-dire cette chose dont, dont celle qui a été ma directrice de mémoire, Elisabeth de Fontenay, la philosophe grande défenseresse, je ne sais pas comment il faut dire, défenseuse des animaux, des bêtes, hein, bien sûr, détestée Malebranche, puisqu'il y a cette scène où il aurait donné un coup de pied dans une chienne enceinte, en ricanant et en disant, vous voyez, c'est qu'une machine, les cris qu'elle pousse, ce n'est qu'une machine. Mais en fait, ce n'est pas d'abord une thèse mécaniciste, l'idée des animaux-machines qui ne souffrent pas réellement. C'est une thèse théologique chez Malebranche. Les animaux n'ayant pas péché, Dieu serait injuste de les faire souffrir. Donc en réalité, ce sont des mécanismes parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre un Dieu qui serait injuste au point de faire en sorte que la souffrance qui est une peine issue du péché originel, et celui qui devrait porter cette peine, c'est l'homme seulement, donc l'homme lui peut souffrir, mais les bêtes, non, ça ne peut pas être vraiment de la souffrance. Et vous voyez, c'est cette sorte d'innocence qu'il voudrait donner à Dieu par rapport à la souffrance des bêtes, face au mystère de cette souffrance des bêtes, qui le conduit à cette thèse. Donc là encore, vous voyez, un homme qui est un vrai chrétien, un vrai contemplatif, mais voilà, avec des traductions extrêmes, tout à fait discutables, bien sûr, mais qu'il faut respecter.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, y a-t-il une preuve philosophique de la vérité du christianisme ? Merci beaucoup Fabrice pour ces éclaircissements sur Malebranche. Venons-en maintenant à ce texte qui est d'une densité incroyable. Il y a deux grandes parties dans ce texte. La première, qu'on pourrait appeler davantage apologétique, avec cet argument, en effet, pris dans le cadre mathématique. Et donc, il faudrait, entre le divin parfaitement infini et le monde humain parfaitement fini, un intermédiaire. C'est ça ?
Oui, alors, en fait, il dit que un homme peut ne pas, à la différence de Dieu, lorsqu'il s'exprime, peut ne pas s'exprimer selon tout ce qu'il est. Mais que Dieu, qui est Dieu, de par sa puissance, mais de par aussi sa vérité, il y a un moment où dans son expression, lorsqu'il va se prononcer, ça c'est ce verbe prononcer hein, qui revient tout le temps dans le texte, eh bien il peut prononcer selon tel ou tel de ses attributs. Et vous voyez, la première chose, c'est d'abord de tirer du néant le chaos. J'aime beaucoup cette pensée de la création, où il n'y a pas formé le monde, il y a d'abord... Dieu est d'abord le créateur du chaos, ça c'est très, c'est-à-dire de la matière informe. Il y avait rien, puis il y a le chaos. Et là, il montre sa toute-puissance, parce que tirer quelque chose du néant, bah, c'est être tout-puissant. Nous ne sommes pas capables de faire ça, nous partons toujours d'une matière préexistante. Bon. Ensuite, deuxième chose, former le monde. Donc ça veut dire donner un ordre, distinguer les créatures, les mettre dans une certaine interdépendance. Et ça, c'est sa sagesse. Ensuite, si je me souviens bien, il crée l'homme capable du bien et du mal, et là, il va manifester sa justice et sa bonté, donner à un être la capacité ben, de faire le bien, c'est bon ça. Mais en même temps, justice, parce que s'il fait le bien, il mérite la récompense, le mal, le blâme. Mais dans tous ces cas... Qu'il s'agisse, la toute-puissance est peut-être un peu impare, mais malgré tout, il manque le fait que Dieu est infini. Et que cette sagesse, cette chose, tout ça est infini. Est au-delà de tout ce que nous pouvons nous représenter. Et donc, il y a un moment où il faut que l'infini entre dans le monde. Que l'infini se joigne au fini. Et à ce moment-là, Dieu révèle tout ce qu'il est. Il se prononce. Et malheureusement, je tends à dire, ben voilà, c'est normal que Dieu prononce, exprime à la fin. Donc on voit bien qu'ici, on est plutôt dans une tradition, on pourrait dire franciscaine et pas dominicaine, sur le motif de l'incarnation. Les dominicains insistent sur le motif de l'incarnation comme étant la rédemption, donc liée au péché. Les franciscains ont tendance à dire, mais en fait non, la création devait faire en sorte qu'à un moment, la plénitude de la gloire divine entre aussi dans le créé. Et voilà. Et là, il y a cette thèse-là. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas eu de péché originel, il y aurait eu incarnation. Bon. On est plutôt de ce côté-là. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il va dire, voilà, quand il unit son verbe à son ouvrage, il prononce qu'il est infini. Tout d'un coup, tous ces attributs que les philosophes pouvaient voir comme des attributs compréhensibles. Et là, il parle de la philosophie. Ok, la sagesse de Dieu, on voit ce que c'est, et on en fait une sagesse à notre mesure, qu'on comprend. On peut comprendre l'ordre du monde, la justice de Dieu, on en fait une justice à notre mesure. Non, c'est une justice infinie. Et donc, tout d'un coup, il faut que l'infini entre dans le monde. Et à ce moment-là, c'est ça qui est extraordinaire, parce que il y a un raisonnement absolument génial. Jean-Louis Chrétien, qui a écrit un très beau commentaire de passage analogue à celui-ci, qui s'intitule « La limite de la métaphysique », selon Nicolas Malebranche, dit que c'est au moment même où le verbe se fait chair que l'infini entre dans le monde, que tout d'un coup nous découvrons que le monde aussi n'est rien par rapport à Dieu. Donc il y a un double mouvement. Quand on découvre qu'on a besoin de l'infini pour rendre un culte à l'infini, on découvre que tous les cultes qu'on avait avant, c'était rien, que nous ne sommes rien, au moment même où le Christ nous est donné. De la même façon, au moment où le Christ sauveur apparaît, c'est de ce moment-là que nous découvrons notre misère, à quel point nous étions pécheurs. Il a fallu cet homme en croix. De la même façon, voilà. Et à ce moment-là, il dit, ben voilà, le seul culte qui est à la hauteur de Dieu, vous voulez rendre quoi à Dieu? C'est le néant, ce que vous voulez. C'est d'offrir Dieu à Dieu. Et le seul qui fait ça, ben c'est cet homme, Jésus, qui est aussi le vrai Dieu.
Magnifique. Et la deuxième partie de ce texte, c'est donc l'infini entre dans le monde, la première partie apologétique, seconde partie, la conséquence pour nous, il faut que l'infini entre dans la raison.
Oui, alors que l'infini entre dans la raison, mais attention, hein, c'est pas la deuxième partie, en fait, s'achève sur le culte, le vrai culte. En fait, c'est un texte qui dit que rien n'est plus rationnel que l'Eucharistie. C'est ça ce que dit le texte. Vous voyez, donc la foi en Jésus-Christ est la véritable religion, l'accès auprès de Dieu par Jésus-Christ, le seul vrai culte, la seule voie de mettre nos esprits dans une situation qui adore Dieu, c'est-à-dire qui donne Dieu à Dieu. Parce que c'est ça l'Eucharistie. Quel est le sacrifice, quand on dit « cela est juste et bon » dignum et justum est, on dit en latin. Quel est le culte digne de Dieu, à la hauteur de Dieu? Et c'est là où c'est pour ça qu'il dit, regardez la religion des Juifs, c'est très bien, bon, les Mahométans, pourquoi pas, ça n'est pas... Dieu ne s'y prononce pas aussi distinctement, parce que dans tous ces cas, ça n'est pas l'infini, c'est pas Dieu en tant qu'infini qui est loué. Or, pour louer Dieu en tant qu'infini, rien de fini ne peut convenir. Et donc, on est dans une... C'est là où il y a une preuve rationnelle. C'est là où il est en train de dire, voilà, regardez les diverses religions, laquelle se targue, d'une certaine façon, de dire, nous n'offrons rien à Dieu, la création ne peut rien offrir à Dieu, à rien. Il n'en a pas besoin. Et il y a un tel écart entre le fini et l'infini. Mais attention, regardez, cherchez. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a une religion qui prétend faire cette chose qui est folle, je veux bien qui est folle, mais qui dit ben, nous offrons Dieu à Dieu. Et qu'est-ce qui se joue précisément dans l'Eucharistie, le prêtre qui est un instrument bien rend le seul culte absolument à la hauteur, parfait, digne. Parce que cela est juste et bon, c'est pas aussi précis que juste et digne. Hein, digne, c'est-à-dire à la hauteur de la dignité divine. Et juste, ça veut dire qu'on lui rend ce qui lui est dû exactement. C'est pas juste, c'est pas « ouais, t'as fait ce que tu peux ». Voilà, on va se contenter de ça, ça reste à ta hauteur, mais c'est pas à la mienne. Non, là, c'est vraiment à la hauteur de Dieu. Et voilà, où est-ce qu'il y a une religion qui prétend offrir Dieu à Dieu? Où est-ce qu'a été donné le Verbe de Dieu pour qu'il y ait justement, en retour, notre participation à ce culte? Où est-ce qu'il y a adoré en esprit et en vérité? Et c'est comme ça que l'entend Malebranche. Donc, au fond... On a ici un argument très simple pour honorer l'infini, il faut l'infini. Quelle est la religion qui prétend donner l'infini à l'infini? C'est le christianisme. Où est-ce qu'elle le donne? Dans le culte eucharistique. Donc voilà. maintenant, on peut arrêter l'émission, vous pouvez aller à la messe.
Merci Fabrice. Juste, j'aimerais relever le côté paradoxal que dans la querelle avec Arnaud, Arnaud va beaucoup reprocher à Malebranche, à cause de sa physique cartésienne, de refuser la transsubstantiation et donc de nier l'Eucharistie. Et donc c'est beau de montrer qu'en effet, Malebranche est bien plus catholique que ce qu'on a accusé. Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Nicolas Malebranche, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.